Couture, dans le mid.
En vacances.
Fait que, les hommes.
Radio X.
Ah, c'est ça les vacances, hein? C'est relax, c'est différent, c'est pas toujours pareil, ça fait du bien. On n'a pas les mêmes auditeurs, les mêmes auditrices non plus, parce que des gens viennent de l'extérieur, puis on apprend à découvrir d'autres talents, puis d'autres passions.
Aussi. Nous autres, on change de place aussi, fait qu'on se ramasse à pas parler au même monde qu'on parle d'habitude. Là.
J'ai des gens de Napierville qui me disent qu'on pourrait pratiquer le... s'adonner au « Ah, oh, c'est un beau Willy, ça!
Oh! »
En moto, là-bas, à Napierville aussi, on pourrait le faire.
Bon, c'est cool,
mais
ça.
Mais ce sont toujours des gestes que j'endose pas nécessairement, mais qui sont des fois périlleux.
Ben,
tu sais, la nature est faite de même, hein?
Tu vas pas empêcher quelqu'un de le faire, faut qu'aussi bien le faire sécuritairement.
Tu sais, j'écoute Raymond, là. Raymond, lui, a fumé toute sa vie. Il a 77 ans. Je trouve ça bien cave que le jeune ait fait du aller, mais Raymond, lui, traversait le parc. Pour traverser le parc, c'était 12 bières.
C'était le temps. C'est de même qu'il comptait son temps, c'était en bière.
Comment de fois que la police l'a arrêté, Raymond? Parce que là, il avait pris trop de bière, puis dans le char, il y avait de la bière, puis ils l'ont vidé à terre, puis ils ont dit « Va-t'en à la maison tranquille, là. » Hein? Il y en a comme ça, là. Ça fait partie de la vie. Là,
ben oui.
Ça fait partie de la vie, toutes ces affaires-là. Puis tu sais, d'entendre ça, on n'entend pas ça souvent à la radio, là. Un gars qui dit qu'il fait du aller. Puis que finalement, la police a gagné contre lui, là. Puis il s'est tranquillisé. Pas tout le monde, là.
Non.
J'aurais aimé ça avoir celui qui s'est pété à la gueule, mais tu sais, il est plus dur à retracer, celui-là. Là. Mais encore, là.
Quoique.
Quoique, c'est ça. Pour parler de vacances, moi, le plaisir de parler avec mes aînés, parce qu'on s'en cachera pas, mon invité est pas jeune, mais maudit que j'ai du fun avec les fins de semaine. Puis là, j'ai dit, Saint-Claude... Comme trip, je vais me payer un Claude Roy dans le mid, un vendredi comme ça. Comment ça va, Claude?
Hey, ça va super bien. J'espère que vous m'entendez bien, là.
Ah oui, je t'entends bien. Je pensais te voir ici, mais là, j'ai compris que tu restais à la maison tranquille, puis c'est bien correct de même.
Ben, c'est-à-dire que je veux pas monter en ville, c'est ici. Ça me tente pas, là, avec tous les travaux, ça me tente pas.
Moi, te le dire, là, pour prendre mes mots à moi, là, présentement en ville, c'est pas drôle.
Non, je le sais, puis oubliez pas que je conduis les autobus encore, moi, là, puis il faut que je me tape la Haute-Ville, puis c'est vraiment pas drôle.
Non, non, c'est pas le fun. Hier, je suivais en voyageant un de tes collègues, puis ça a été long, là, avant que les policiers qui faisaient du trafic le laissent passer. Je pense qu'il a passé 15 minutes. On a passé facilement 15 minutes à une lumière hier. Là, ça fait partie de la vie. Claude Lapêche, ah, la pêche, là. Hein? Là, c'est là qu'on décroche. Regarde, on a notre gréement, on a nos affaires, puis là, on s'en va à la pêche. Mais c'est-tu bon quand il fait chaud comme ça, la pêche?
Ben, on a déjà parlé. On va revenir un peu ce matin parce que j'ai eu des commentaires. J'ai eu des gens qui m'ont écrit sur ma page Facebook pour me demander justement de reparler de la fameuse pression barométrique puis de la chaleur pour la pêche. C'est bien évident que si on pêche dans le fleuve, parce que le fleuve, il est à côté de nous autres, il y a du doré, il y a du brochet, il y a de l'esturgeon, il y a quand même beaucoup de bars rayés. Donc, le fleuve, c'est pas pareil. L'eau est un peu plus fraîche. Puis comme il y a un grand courant, parce que les gens savent pas, mais il y a un très, très grand courant sur le fleuve Saint-Laurent, ben il faut jouer avec ça. Et l'eau n'est pas la même température que dans des lacs qui sont vraiment fermés. Dans chacun des lacs, il y a toujours une charge puis une décharge, c'est-à-dire un endroit où le lac se remplit. Bien des fois, c'est ce qu'on appelle des zones souterraines. L'eau va rentrer par en dessous, par des cavités en dessous, mais elle va sortir toujours dans un endroit qui est habituellement visible, où il faut le trouver, cet endroit-là, parce qu'il y a un courant de fond. Puis il faut suivre le courant de fond. Entre la charge et la décharge, le poisson va toujours s'installer la tête vis-à-vis la charge pour être capable d'accumuler la nourriture qui va lui arriver plus facilement.
Okay.
Donc, à ce moment-là, c'est déjà une technique. En partant, c'est une technique. Trouver la charge et la décharge pour savoir dans quel sens on va prendre le poisson.
OK.
Parce que quand on va pêcher, un leurre qui passe à côté du poisson ou qui s'en va en avant du poisson pour le poisson, c'est facile. Parce qu'il a juste à partir, il a juste à donner deux, trois bons coups de queue, puis il va aller attraper l'heure qui passe à côté de lui ou qui vient de passer. Alors que si on pêche à sens contraire du courant, c'est-à-dire que si on descend, puis le poisson, il a la tête de côté, il ne se revirera pas. Oui, il y a une grande probabilité qu'il ne se revire pas pour aller attaquer l'heure qui va passer. Donc, c'est déjà une technique de pêche en soi, c'est de trouver la charge, la décharge. Et comme on l'a dit souvent, c'est de trouver la thermocline. Et la thermocline, dans ce temps ici, c'est la couche d'eau qui est entre l'eau chaude de surface et l'eau froide du fond. C'est une zone qui est tempérée, qui est en plein milieu. Et habituellement, on va la trouver entre 12 et 15 pieds. Et ça, c'est la place où on va devoir pêcher pour avoir le meilleur résultat de pêche.
Encore une fois, les marées. Là, j'essaie de regarder, j'essaie d'y trouver les marées. Là. Y a-t-il un endroit, toi, que tu participes pour trouver les marées le plus facile? Y a-t-il un site?
Ben, puis, ça va sur les tables de marées. Les tables de marées vont te les donner. Tu as ça sur Internet.
Aujourd'hui, la marée haute est à 2h14. La marée basse est à 9h35. Puis là, la marée va redevenir haute à 14h41 aujourd'hui, à la hauteur de Québec. Maintenant, c'est quand je pêche là-dedans, là?
Bien, c'est la dernière heure de marée montante. Donc, elle va te dire, par exemple, la marée est haute complètement à
14h41. Donc,
14h41, donc la meilleure heure de pêche va être entre midi et, je te dirais, 15h30.
Okay.
Parce qu'on parle toujours de la dernière heure de la marée montante. L'étal, c'est-à-dire où il ne se passe rien entre le montant et le descendant, ça s'appelle l'étal, et la première heure du descendant, et ça va te donner ton meilleur temps de pêche de la journée.
OK, bon, on m'a toujours dit de ne pas pêcher à midi, de pêcher le matin ou de pêcher à brunante. Bien là, l'étal, il sera à peu près à 2h30, 3h. Donc...
Puis ça va être une très bonne période pour pêcher si on suit la marée, encore une fois, indépendamment où on s'en va. On peut pas prendre la marée de Québec pour aller pêcher à Baie-Saint-Paul.
Non, ça ne sera pas la même marée, là.
Là, on n'a pas la même marée et on n'a pas le même temps. Donc, il faut prendre la marée de Baie-Saint-Paul ou la marée des Escoumins ou la marée de la Côte-Nord à Forestville, indépendamment dans quelle région on va pêcher. Les gens disent, oui, mais il n'y a pas de marée sur les lacs. Je sais qu'il n'y a pas de marée. Mais l'influence lunaire des marées fait exactement la même chose au niveau des lacs.
La pression
joue, la pression barométrique, et l'heure des marées. Donc, c'est important de suivre ça partout où on va pêcher.
Puis, mettons, quand on pêche dans un lac qui va être loin du fleuve, est-ce qu'on essaie de regarder en bas de où est-ce qu'on est? C'est dur à expliquer, mais moi, je pêche dans Portneuf, fait que je vais regarder comme en ligne droite avec le fleuve en bas de Portneuf.
C'est bien ça, donc Cap Santé, Portneuf, toute cette région-là, tu prends ta marée là, puis ça va te donner la même chose au niveau des lacs en arrière pour les meilleures périodes de pêche. Essayez-le, vous allez vous convaincre par vous-même.
Mais
si vous respectez les heures de marée, vous n'aurez pas besoin de vous lever à 4 heures du matin pour aller pêcher le matin puis le soir.
Mais le classique matin, ça marche quand même.
Oui, le classique matin va marcher quand même parce que l'eau pendant la nuit, le temps va rafraîchir. L'eau va rafraîchir et la truite va être active. Mais combien de fois j'ai vu des gens partir à 5 heures le matin puis revenir au chalet pour venir déjeuner à 9 heures alors que j'avais préparé le déjeuner. Puis le gars dit, mais pourquoi tu ne vas pas à pêche? Pourquoi j'irai à pêche? Quelle pêche t'as fait le matin? T'as pris deux truites de 6 heures du matin à aller jusqu'à 9 heures. Alors que quand je vais sortir tantôt avec mon heure de marée, la pêche va être plus active. Le poisson va être plus actif, puis moi, je respecte ça.
Est-ce que c'est pareil pour tous les poissons, Claude, que c'est la marée? Mettons, je m'en vais au brochet, là. Le brochet...
Ouais, je te dirais que là, on va parler... Je te parle plus de truites mouchetées. Le brochet, on va le pêcher dans les endroits où il va y avoir de la végétation, où il va y avoir des arbres tombés, ou un endroit où le brochet est capable de se cacher. Donc, par exemple, dans la rivière Saint-Charles, à Québec, il y a beaucoup de branchages sur le bord de l'eau. On va pêcher là parce que le brochet va se loger là, dans des endroits à l'ombre. Mais même à ça, le brochet, bien, des fois, moi, j'ai vu pêcher en rivière Puis le brochet s'en est tranquillement puis venir s'installer entre mes deux pieds. J'en ai filmé des brochettes qui sont grillées la moitié du corps. C'est pour ça que quand on arrange un brochet, je dis toujours, gardez pas la bédaine. La bédaine du brochet, elle passe son temps dans la vase, puis c'est pas la meilleure viande. Donc, c'est pas pareil pour le brochet, puis c'est pas pareil pour le doré. Le doré, lui, il va être actif le soir en fin de journée. Il va être actif vraiment près de la noirceur. Puis il faut s'approcher de tous les crans de roche où la végétation est abondante pour que les petits poissons à pas viennent chercher les insectes qui migrent sur les plantes. Puis comme ça, on va avoir ce qu'on appelle le menu complet. Le gros poisson vient chercher les petits poissons qui, eux, viennent chercher les insectes en bordure. Donc, tous les crans de roche, les endroits où il y a beaucoup d'algues, les endroits où il y a beaucoup de foin qui sortent à la surface, c'est un endroit pour aller pêcher le doré.
Là, quand on a checké la marée, on le sait où on s'en va, quand c'est le temps de choisir quel poisson on pêche, puis surtout avec quoi on va le pêcher, moi, je viens tout mêler. J'ai un coffre qui est plein de toutes les rapalas, de toutes les couleurs que tu peux pas imaginer. À truite, je le sais, je prends un Toronto Wobbler, puis je mets un bon leader de 18 pouces, puis ça mord comme ça pas de bon sens. Mais quand on parle de d'autres choses, tu sais, dans le fleuve, j'ai jamais réussi à rien pogner.
Mettons un bon rayé, ouais. Ou un achiga à grand gueule ou à petite bouche. Ou...
Je mets-tu une motte de verre? Je mets-tu le rapala que j'ai payé 30$? Hein?
Sur le fleuve, à cette période-ci, il va commencer à y avoir beaucoup d'algues. Donc, quand on pêche avec, par exemple, un rapala, parce qu'on peut le pêcher au rapala, on va se ramasser, il va falloir qu'on dégage notre ligne souvent parce qu'il y a beaucoup de foin qui circule avec le courant. Puis notre rapala, habituellement, va être bien plein. Donc, il faut essayer de descendre notre rapala le plus possible près du fond où les algues, en réalité, ils flottent à la surface. Donc, si on prend un rapala qui flotte à la surface, on va passer notre temps à nettoyer le rapala avec les algues, alors que si on descend notre rapala avec ce qu'on appelle un marcheur de fond, ben on descend notre rapala plus bas que la ligne du foin, puis on va ramasser moins de foin, puis le brochet va être là. Le brochet puis le doré vont être d'un cran de roche. Il s'en va d'un cran de roche, un pour se cacher, deux pour s'alimenter, parce que c'est là que les petits poissons à pas se logent. Donc, on peut pêcher au rapala. Mais attention! Parce que quand on prend un rapala qui est petit, il y a des gens qui disent « Ah, mais je ne veux pas prendre un gros rapala. » Plus tu prends ton rapala petit, plus le mouvement du rapala va être ce qu'on appelle erratique, c'est-à-dire il va bouger beaucoup rapidement de gauche à droite. Donc, si ton poisson est lymphatique, si ton poisson ne réagit pas facilement parce que l'eau est chaude, ben, il ne courra pas après un poisson qui se sauve en avant de lui. Donc, grossissez le volume de vos rapalas. Mettez pas de rapala articulé, parce qu'il y a des poissons nageurs, des rapalas avec une penture au centre, où ça donne beaucoup d'effet. Ça, c'est pour dans le temps où le poisson est bien actif. Quand le poisson n'est pas actif, on ne met pas de poisson nageur articulé. On prend un poisson nageur qui a plus de volume. Et ayez pas peur, les poissons attaquent ça. Un petit doré va attaquer un gros rapala. Et même une truite mouchetée va attaquer un rapala.
Est-ce que c'est pareil pour le masquinongé et le bord-rayé?
Masquinongé, on parle, c'est à peu près le poisson le plus difficile à attraper. On parle de 70 heures de pêche en moyenne pour un masquinongé.
Et tabarouette, OK.
Donc, quand on pêche, par exemple, dans la région de Montréal, les grands pêcheurs de masquinongé le savent. Il faut être patient. On fait beaucoup de pêche à la traîne. Encore une fois, on longe les herbiers, on longe les endroits rocheux où le poisson est susceptible d'aller. Par contre, pour le masquinongé, les pêcheurs de masquinongé remettent entièrement tous leurs poissons à l'eau. Ce n'est pas un poisson qu'ils vont prendre, capturer pour le manger. Pour être sûr que le poisson va résister, parce que pendant le combat, le masquinongé développe un acide qu'on appelle de l'acide lactique, qui fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup le masquinongé. Et pour être capable de remettre un masquinongé à l'eau correctement, on le met dans un filet qu'on appelle une civière, qui est comme un lit, dans lequel tu mets le masquinongé en plein milieu, tu le laisses tremper dans l'eau, et quand tu, au bout de 15-20 minutes, tu peux le remettre à l'eau, là, il va avoir repris son esprit, puis tu vas le sauver.
OK. Mm. Sinon, oublie ça, là, il va crever, lui, il s'est vidé.
Sinon, il va mourir. Ça sert à rien de décrocher, puis le remettre à l'eau, il va aller mourir.
J'aimerais que tu réexpliques comment décrocher une truite, mettons, une génitrice, parce que t'es pas trop un viandard, puis que tu te dis, ouais, j'ai pogné une génitrice, puis si je veux qu'il reste des truites dans le lac, celle-là, je vais laisser faire d'eau petit. Les gens ont souvent tendance à pogner une paire de longues noses, mon Claude, puis à ouais, tire, la langue, tout ce que tu veux, le dedans, mais c'est pas de même qu'il faut faire pour décrocher une truite, hein?
Quand on a une truite qui est au bout de notre ligne, on le voit déjà en partant. Si c'est une grosse truite ou une petite truite, on le voit. Quand ils sont petites ou grosses, on fait le même processus. On la laisse dans l'eau. On la fait pas trop gigoter à la surface de l'eau pour qu'elle dépense de l'énergie. Et quand on l'approche du bateau, on y touche pas. On prend le monofilament près de la cuillère puis on coupe le fil. On la laisse aller avec l'hameçon. Au bout de quelques jours, juste l'acidité de la bouche va avoir fait fondre l'hameçon. Elle va continuer à se nourrir. Moi, je laisse à peu près une douzaine de pouces, je touche jamais au poisson. Je coupe le fil de l'hameçon, puis je la laisse partir avec ça. Au moins, je suis presque persuadé de l'avoir sauvé. Sinon, on la met dans un filet, on la décroche de la même façon en coupant le monofilament. On la met dans un filet, puis on laisse le filet dans l'eau. Et quand on voit qu'elle nage librement dans le filet, on baisse notre filet, puis on la laisse partir. On la manipule pas avec nos mains. On n'essaye pas d'aller chercher ça avec un dégorgeoir dans le fond de la gorge. Ça, c'est uniquement si on veut les garder. Si on veut les relâcher, on coupe le fil parce qu'une truite, c'est hémophile. Et dès que ça a commencé à saigner, ça continue à saigner jusqu'à la fin.
Ah, c'est vraiment triste. Claude, tu pêches depuis que Jacques Cartier a découvert le Québec. Moi, dire honnêtement, ça fait toujours plaisir de te jaser, pêche, parce que je la ressens, cette passion-là. Je ressens ça, puis je suis tellement fier de travailler avec toi, puis on en apprend tellement. J'ai plein d'auditeurs, auditrices qui m'écrivent, qui en apprennent avec toi. T'as fait tout, hein. T'as parlé à TV, t'es en politique avec pour ton sport puis ta passion. Évidemment, aujourd'hui, bien, j'ai la chance et l'honneur d'être capable de partager un micro avec toi. Merci beaucoup, Claude Roy.
Hey, merci, ça me fait plaisir. Puis encore une fois, bonnes vacances quand vous les prendrez. Là.
C'est ça, moi je m'en vais là. Là,
Claude. Fantastique. Fait, passez des belles vacances.
Salut. Donne un bisou à ta blonde. Bye, à la prochaine.
Bye.
Merci, Claude. On fait une pause?
Oui.
Parce que là, on est en train de défoncer dans le retour.
On
est-tu dans le carbo chaud? Ah, il n'y a pas de carbo chaud. On est dans l'exploratrice?
Ah, Mélanie?
Anani?
Mélanie? On vient.
Ça arrête pas de banaler.
Couture dans le mid. Radio X.